le Seigneur Tout-Puissant règne.
Amen.
Tu vas venir. Nous allons introduire la prédication de notre cher pasteur Roger Suel avec deux lectures dans le Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Tout d'abord, dans le chapitre 9, versets 35 à 38.
Désolée, dans la présence, je pleure. Voilà. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il n'a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. »
Et dans le même évangile de Matthieu, chapitre 28, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, versets 16 à 20. Pardon. 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sous la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Donc nous allons découvrir tout à l'heure davantage de ce ministère de compassion, de Mercy Ships. Mais pour l'instant, nous sommes dans l'évangile de Matthieu et nous allons nous arrêter sur le passage qui a été lu au chapitre 9. Et j'aimerais juste situer ce passage dans son contexte. Quelle est l'histoire jusque-là? Je ne sais pas si vous avez entendu de l'État islamique un porte-parole qui a dit, je ne sais pas si c'était de Mossoul ou de Raqqa, que c'est le lieu le plus sûr dans le monde. Et peut-être c'est le cas pour ceux qui plient au système totalitaire, qui ne sortent pas du rang. Alors ici, dans l'évangile de Matthieu, il s'agit aussi d'un occupant qui exerce le pouvoir sur le pays avec une véritable main de fer. Cet occupant, il a fomenté la discorde entre créatures et créateurs au départ, et il règne en maître impitoyable sur le pays. Le roi légitime, c'est le premier chapitre, arrive à l'insu de la population dans une discrétion totale. Mais l'usurpateur en avant et cherche à supprimer la menace, chapitre 2. À son atterrissage, au tout début, oui, et encore plus quand l'héros commence à rendre public l'arrivée du libérateur. Ensuite, chapitre 4, secrètement, il propose une sorte d'accord que le libérateur, le roi légitime, devient son associé subalterne, bien sûr, si tu te prosternes et m'adores. Il voulait bien sûr garder tout pouvoir. Il y a, devant le net refus de celui qui vient, il s'en va pour un temps. Et voilà que nous trouvons le roi véritable qui se lance à conquérir les cœurs lassés et abattus, languissantes et abattus, comme nous avons entendu. Il a publié son manifeste, c'est les chapitres 5 à 7, loin des caméras sur une montagne, et maintenant il apporte des preuves indiscutables de son autorité légitime. Nous arrivons donc à notre passage. Le prince obscur, en tant qu'être rusé, il observe les événements de près et, dans les coulisses, prépare le terrain pour supprimer cet envahisseur gênant, une fois pour toutes, attendant sa chance. Donc, nous trouvons le roi en pleine campagne dans sa circonscription, non pas pour imposer son règne, mais il est venu appeler à le suivre, lui, tous ceux qui ont soif de justice, de vérité, de paix, de liberté, bref, d'entrer dans cette vie nouvelle que nous avons chantée. Juste pour suivre où nous allons découvrir le royaume ainsi révélé, porte qui s'ouvre sur un autre royaume. Nous allons entendre la motivation du Messie qui est là, et puis le mandat que laisse le maître de la moisson. Donc ce royaume révélé, une porte qui s'ouvre sur un autre royaume. L'auteur de ce que nous avons entendu s'appelle Matthieu, il était un des 12 disciples de Jésus, présente Jésus comme le roi. Et vous pouvez penser aux paraboles que Matthieu relate de Jésus, de ce roi qui a convoqué ses serviteurs pour rendre des comptes. Et il y a ce serviteur impitoyable, il y a ce roi qui désire célébrer les noces de son fils, il y a du côté de l'opposition, es-tu le roi des Juifs? Il y a la moquerie des soldats qui le rêvaient comme un roi, et l'écriteau sur la croix, le roi des Juifs. Ce roi est venu vers les siens, en tout premier lieu. Ceux qui étaient en principe avertis d'avance de sa visite. Matthieu va le souligner aussi qu'il accomplit les prophéties. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne et annonce une bonne nouvelle dans les synagogues. Pour tous ceux qui attendez un roi de la même trempe que l'occupant, il passera incognito, non reconnu. On n'attendait pas des ministères de compassion, mercy ships sur le lac de Galilée ou ailleurs. Non, on attendait non pas la compassion, mais la libération sanguinaire. Libération, cependant, il y en aura. Il prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Autant de fenêtres qui s'ouvrent sur son royaume où, installé définitivement sur terre, il n'y aura plus ni maladie, ni infirmité, ni mort même. Donc des signes que le royaume à venir envahit maintenant activement notre monde actuel. Le roi est venu introduire son règne. Donc nous retrouvons Jésus parcourant les villes et villages de la Galilée, dont l'historien juif Joseph dit il y en avait 204, et il écrivait au 1er siècle, dont chaque ville avait au moins 15 000 personnes. On est surpris, ça fait, s'il voit juste, vers les 3 millions de gens. Et qu'est-ce que Jésus y découvre? Des brebis sont bergers. Donc la motivation du Messie. Que font des brebis qui n'ont pas de berger? Michel qui est berger, qu'est-ce qu'ils font des brebis qui n'ont pas de berger? Je te prends à froid, hein? Alors, voilà, donc, chacun suit son chemin comme il peut, chacune, brebis. Comme vous le savez, moi, j'étais 6 mois en kibbutz en Israël, où je me suis occupé du troupeau des brebis, pas tout seul, heureusement. Et puis un jour qu'on est rentré des champs avec les brebis, le berger principal a remarqué qu'il y avait beaucoup qui en manquaient. Donc on est retourné les chercher, c'était dans la chaleur de la journée maintenant, et on les a trouvés, non pas chacune allant son chemin, mais dans un cercle, les unes à côté des autres, avec la grande crainte qu'elles allaient avoir beaucoup, beaucoup trop chaud. Donc, en Israël, en tout cas, elles tournent en rond. Que font les brebis qui n'ont pas de berger? Que font les êtres humains qui n'ont pas de berger? Ça, je vous laisse répondre comme vous le voyez. Je me rappelle d'un ami dans une autre église où on était. Il disait, un peu agacé, au pied de son meuble, les colocataires se réunissaient et que lui, il ne voulait pas assister à leur ânerie. Jésus, par contre, se sachant envoyé vers les brebis perdues d'Israël, lui, il cherchait ce contact. C'est dans le chapitre juste avant que ce que nous avons lu. Pourquoi votre maître mange avec les péagers, les pêcheurs, les gens de mauvaise réputation? Jésus, qui a entendu, dit, mais à votre avis, ce sont les bien portants ou les malades qui ont besoin de médecins? Allez découvrir ce que ça veut dire, je désire la miséricorde et non pas des sacrifices. Rien n'était trop dérangeant pour Jésus, qui connaît nos faiblesses. Il est venu d'ailleurs pour ça. Tu l'appelleras Jésus, disait l'ange, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Nous, nous sommes tentés à l'indignation, l'agacement devant les foules sans direction et avec tous leurs agissements. Jésus, lui, est poussé à la compassion. À la vue des foules, il en eut compassion, justement parce qu'elles étaient lassées et abattues parce que comme des brebis qui n'ont pas de berger. Compassion, le mot utilisé ici, ça veut dire ému jusqu'aux tripes. bien sûr, ça n'empêche pas Jésus de s'exprimer contre ceux qui choisissent de garder les pratiques de ce royaume rival. Il va le faire dans le chapitre suivant, parler du jugement à venir. Ça ne veut pas dire qu'il va rien dénoncer. Le chapitre 23 en est rempli de ce qu'il dénonce, les pratiques à Jérusalem, mais le chapitre se termine avec Jésus pleurant sur la ville. Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes, qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai désiré rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poulains. Mais poussin. Mais vous ne l'avez pas voulu. Devant les besoins variés que confronte Jésus, sa réponse essentielle, c'est la compassion. Pour nous, aujourd'hui, comme hier. Alors, j'aimerais juste vous rappeler, et c'est nos 3 minutes théologiques, l'image que nous trouvons souvent dans l'Ancien Testament de Dieu et de son Messie, qui vient conduire, nourrir, protéger son peuple, c'est justement celle du berger. Vous avez peut-être à l'esprit différentes images de l'Ancien Testament. Et Matthieu va dire à ses lecteurs juifs, donc avertis, toujours à nouveau cette réalité, il y fait allusion. Et toi, au début, du début jusqu'à la fin en fait, et toi, Bethléem Ephrata, toi tu n'es pas le moindre des villes principales de Juda, car de toi sortira un maître qui fera paître Israël, mon peuple. Ici, dans notre passage, des brebis sans berger, et au chapitre 10, le chapitre suivant, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et la conclusion, au moment de sa crucifixion, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Le but de Matthieu est de démontrer que Jésus est ce Messie qui devait venir. J'imagine, nous allons apprendre davantage tout à l'heure, comme un ministère comme Mercy Ships, il faut une bonne dose de compassion. Peut-être pas tellement pendant les heures de travail, parce que, en fin de compte, on est là pour ça, prendre soin des gens. Mais si on a fait appel en dehors des heures de service, quand on est dérangé dans son temps privé. Jésus était constamment sollicité par les besoins de la foule. Et il a toujours démontré la compassion, même en dehors des heures de travail. La motivation de sa mission était la compassion. Parce que l'heure du jubilé a sonné. C'était le temps de libérer les esclaves, de remettre les dettes des endettés, de donner aux terres opprimées le repos tant attendu. Le Messie est là pour libérer son peuple. Et quel est le mandat du maître de la moisson qui nous laisse? Est-ce que vous avez remarqué le mouvement de ces quelques versets? On a commencé où? Dans les villes et les villages de Galilée. Ensuite, on a progressé dans l'enclos de la maison d'Israël. Et maintenant, il est question, dans le dernier verset, d'une grande moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De quelle moisson s'agit-il? Eh bien, des hommes, des femmes, des enfants qui se sentent terriblement seuls dans un monde jusque-là vide de sens. Des gens qui ont été trempés dans leur besoin d'amour véritable. Des personnes désespérées, désorientées, perdues. C'est ces gens-là que le maître de la moisson a dans son viseur et qui sont sur le point de faire la découverte de leur vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez découvert que le maître était là pour remettre toutes vos dettes, vous rendre libre de tout ce qui vous avait enfermé jusque-là. Vous préparez l'année de la faveur du Seigneur. On pense rencontrer, on sait qu'on mérite son indignation et on rencontre sa compassion. Ce roi, humble de cœur, vient dévoiler et introduire un royaume absolument merveilleux à venir, où la justice et la paix habitera enfin. Et nous pouvons y goûter maintenant. Ce personnage mystérieux qu'est le Messie, si souvent méprisé, est comme un bon berger venu prendre soin de ses brebis. Quoi qu'il en soit, chacun sa propre voie, enfermés ensemble, il donnera même sa vie pour elle. Comprendre cela vraiment, c'est vouloir le suivre. Priez donc, dit le Seigneur de la moisson. Non pas pour notre confort personnel quelconque, en tout cas c'est pas le sens de l'exhortation ici, mais que notre ADN véritable se manifeste. Nous sommes maintenant dans cette famille, dans ce troupeau. Et nous sommes appelés à aider à entrer cette grande moisson, motivés par la compassion du Maître. De continuer à faire connaître cette meilleure des nouvelles, ici et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au retour du roi. En conclusion, je vous raconte la fin de l'histoire que j'avais brossée au début. À l'approche de Pâques, nous nous souvenons que ce visiteur gênant, quoique roi légitime, sera supprimé publiquement, finalement, quoique l'opposition aurait préféré quelque chose de plus discret pour ne pas dévoiler leur vraie identité. Mais en fin de compte, en faire un exemple public n'était pas plus mal pour décourager ses quelques disciples. Et voilà donc une affaire classée le vendredi avant Pâques, de quoi se féliciter. Sans compter sur un revirement de situation totalement inattendu. Ce roi, humble de cœur, faible en apparence, en réalité, est beaucoup plus fort que l'homme fort et va le dépouiller de ses biens. C'est les hommes, femmes sous son pouvoir. En lui enlevant son pouvoir, il a brisé l'emprise de cette main de fer sur l'humanité. Le royaume des ténèbres n'est pas plus fort que ce royaume de lumière qui, la lumière qui jaillit le dimanche de Pâques et que rien ne peut éteindre. Le Messie, prince de la vie, surgira du tombeau, quoique cela est gardé. Rien ne peut l'enfermer. Oui, ce berger a donné sa vie pour ses brebis. Il a aussi eu le pouvoir de la reprendre. Comme il a dit, tout comme il a dit. Ainsi, la bonne nouvelle est à son comble. Et il en résulte une grande moisson, tellement grande en fait, qu'on est toujours en train de le faire entrer aujourd'hui. Le message doit être publié, chacun a le droit d'entendre. Côté roi vaincu, alors lui, il cherche à faire croire qu'il est toujours, il a toujours toute autorité, tout pouvoir. Si c'est la terreur ou la séduction, les moyens lui sont indifférents. Mais, et ce sont aussi nos envoyés, il y a des ouvriers subversifs du maître qui sont à l'œuvre dans les champs du monde. Et malgré cette opposition constante, il continue à annoncer qu'on est libre de sortir. Libre de sortir du rang. Libre du règne de l'oppresseur. Libre d'entrer dans un royaume de paix et de justice. L'ADN de l'EM, c'est aussi ça. Continuer dans cette liberté. Annoncer cette liberté. Encourager tous ceux et celles qui sont partis pour faire entrer la moisson. Amen.
J'aimerais vous inviter à vous lever pour chanter « Ô Jésus, mon Sauveur ». Jour après jour, je te loue.